journal, Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, comme une épidémie silencieuse, ils font 8500 morts par an. L'interview récente du chanteur Stromae l'a montré, les suicides sont de moins en moins tabous. Dans un instant, reportage à Lille où arrivent les appels au numéro de prévention. Tomber le masque dans les rues de Paris, c'est possible. Dès aujourd'hui, les juges administratifs retoquent l'obligation du port en extérieur. Explication dans ce journal. Dans cette édition encore, les ambulanciers en grève, ils revendiquent le statut de soignant. Ne l'appelez plus Votre Altesse, le prince Andrew, toujours empêtré dans l'affaire Epstein, perd ses distinctions militaires et ses parrainages d'associations. Et puis une première, en Autriche, le musée de Vienne expose sa collection d'art nazi. Tout est dans la mise en perspective, vous verrez.
Et à 7h45, ce sera le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Autour d'une question ce matin, les gauches économiques sont-elles irréconciliables ?
France Inter. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fière. Cet aveu chanté du chanteur Stromae en direct sur TF1 le week-end dernier semble avoir ouvert les vannes des témoignages sur ce sujet délicat. Il se multiplie depuis, y compris celui du directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé lui-même. En France, pour ceux qui cherchent de l'aide, il existe un numéro, le 3114. Des psychologues, des infirmiers, des médecins, au bout du fil, 24 heures sur 24. Le tout coordonné depuis le CHU de Lille. Cécile Bideau s'y est rendue.
C'est une petite pièce dans les locaux du SAMU du Nord. Ici, c'est Sylvain Smith, infirmier, qui décroche le téléphone.
Donc là, vous avez des idées de mettre fin à vos jours. Vous voulez prendre des médicaments. Et les médicaments, ils sont à la maison.
Cette femme a déjà fait une tentative de suicide il y a quelques mois. Le risque est d'autant plus grand.
Par rapport à l'état de souffrance par lequel vous me présentez, moi je suis assez inquiet. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Ok, elle a raccroché.
Il faut une prise en charge immédiate, mais la femme a raccroché sans donner son nom et son adresse. Impossible d'envoyer une ambulance. Le moment est délicat, il faut rappeler sans braquer.
Donc là, elle ne décroche pas.
L'infirmier trouvera la porte d'entrée, le centre médico-psychologique mentionné par cette femme au début de la conversation, qui l'identifiera et enverra quelqu'un chez elle. En France, on recense 200 000 tentatives de suicide par an. Elles font 8 500 morts et les professionnels sont convaincus que ces macabres statistiques peuvent s'améliorer, notamment par la communication. Et en cela, la séquence de Stromae aux 20h de TF1 représente un espoir pour Laure Rouge-Gray, médecin psychiatre, adjointe du centre d'appel de Lille.
Parler d'idées suicidaires par quelqu'un qui est une personnalité célèbre auquel on va pouvoir s'identifier, ça a ce côté libération de la parole et de créer du lien.
Le numéro national de prévention du suicide reçoit 350 appels par jour. 11 plateformes réparties sur le territoire sont chargées d'y répondre.
Un reportage France Bleu Nord. Pour relâcher la pression dans l'éducation, le gouvernement passe à l'action. 78 000 personnes ont défilé hier pour dénoncer la gestion de la crise Covid dans les écoles. Un aperçu de leur slogan est en image sur notre site franceinter.fr. Réunion de crise au ministère hier soir et des annonces à la sortie. Jean-Michel Blanquer promet 3300 embauches de contractuels, une meilleure concertation. 5 millions de masques FFP2 seront distribués aux enseignants de maternelle. Les autres profs verront eux leurs masques chirurgicaux arriver dès la semaine prochaine. Le masque qui n'est plus l'accessoire obligatoire dans les rues de Paris. Décision hier soir du tribunal administratif. Cette contrainte, revenue le 1er janvier, est selon les juges disproportionnée. Deuxième décision du genre après celle du tribunal de Versailles mercredi. Expliquez-nous Delphine Evenou.
C'est le Conseil d'État qui a d'abord donné le ton mardi, saisi par un particulier qui attaquait la consigne générale donnée fin décembre par Jean Castex au préfet de rendre le masque obligatoire à l'extérieur en centre-ville. Demande rejetée, mais le juge des référés du Conseil d'État a posé des conditions à cette obligation, qu'elle soit limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de la population pour respecter la proportionnalité. C'est sur ce fondement que se sont appuyés 3 professeurs de droit et un avocat, Jean-Baptiste Souffron, pour contester l'arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Paris.
C'est pas la même chose quand on est dans la rue à 4h du matin ou même d'ailleurs dans la journée à certains endroits dans Paris, ou bien quand on est à la sortie d'un grand magasin, devant une manifestation, dans un rassemblement. L'obligation qui était faite n'est ni nécessaire à la lutte contre le virus, virus, ni strictement proportionné à ce qu'il est utile de faire dans cette lutte.
C'est ce même argument qui avait déjà convaincu la veille le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi par des particuliers. Il a considéré que le port obligatoire du masque en extérieur était une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté individuelle. Les préfectures vont toutefois pouvoir prendre un nouvel arrêté, mais avec des zones et des horaires délimités.
Un changement qui intervient sur fond de progression encore du virus en France. Plus de 24 000 patients Covid hospitalisés, 3 000 de plus en une semaine. Le nombre baisse en revanche légèrement en réanimation à 3 939 en tout. Le vaccin ticket d'entrée indispensable pour les Britanniques qui veulent séjourner en France. Ils peuvent revenir à partir d'aujourd'hui sous réserve d'avoir reçu leurs injections. Plus besoin d'avoir un motif impérieux comme c'était le cas jusqu'ici.
Il est 7h36, le prix de l'électricité, Marion, a beau flamber, le gouvernement maintient sa promesse.
Limiter la hausse de la facture EDF des Français à 4% cette année. Le ministre de l'économie compte bien s'y tenir. Pour ça, l'État baisse drastiquement une taxe sur l'électricité. Il va aussi obliger l'opérateur historique à vendre plus d'électricité nucléaire à prix réduit à ses concurrents. Coût pour EDF autour de 8 milliards d'euros. Détail de cette délicate équation dans le journal de 8h sur Inter. Pour eux, c'est une question de pouvoir d'achat, mais pas seulement. Les 2500 ambulanciers français veulent être considérés comme des soignants, comme les autres. Ceux du SAMU sont en grève aujourd'hui. En 50 ans, ils sont passés de simples conducteurs à membres à part entière des équipes de premier secours. En pointe dans ce mouvement, ceux qui travaillent à Marseille, Olivier Martoc.
À la Timone, le mouvement de grève a démarré en juillet. Le grand public ne le sait pas, car comme les soignants, qu'ils ne sont pourtant pas, les ambulanciers du SAMU sont réquisitionnés. Christophe Combes est leur porte-parole.
Dans ce camion, il y a une unité mobile hospitalière formée d'un ambulancier, d'un médecin et d'un infirmier. Pour eux, en fait, notre boulot se résume à conduire et à brancarder. Nous ne faisons pas partie de l'équipe médicale. Pourtant, notre DEA, donc diplôme d'état d'ambulancier, fait partie du code de la santé publique du livre 4. Nous, c'est simplement une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Des naissances, des arrêts cardio-respiratoires, tout ce qui est plaie par balle, tout ce qui est accident de la route, tout ce qui est multivictime. Donc tout ça, on n'en parle pas, mais pourtant nous sommes là, H24.
Ce qui est nouveau, c'est que désormais, ils peuvent compter sur un soutien officiel des médecins. André Puget est le directeur médical du SAMU 13.
Ils ont une formation spécifique d'ambulancier et ensuite ils ont une formation spécifique aussi au sein du service. Ce sont nos camarades de travail indispensables. Sans eux, la qualité de prise en charge s'en ressentirait.
Pour les ambulanciers hospitaliers, passer du statut de personnel logistique à celui de personnel soignant n'est pas une affaire d'argent. Ça leur rapporterait 40 euros par mois. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Marseille, dont le maire Benoît Payan soutiendra, dit-il, le vainqueur de la primaire populaire pour l'élection présidentielle. Le maire socialiste joint ainsi sa voix à celle de Christiane Taubira. Il égratigne au passage la candidate du PS, Anne Hidalgo. On ne peut pas dire « je vais à la primaire le lundi et le jeudi je n'y vais pas parce qu'il n'y a pas les copains que je veux », je cite. Mais qui attaque les sites internet des ministères ukrainiens? Plusieurs restent inaccessibles ce matin suite à une cyberattaque de grande ampleur la nuit dernière. Pas de revendication pour le moment, mais cela intervient sur fond de vives tensions entre Kiev et Moscou. Un président doublement bloqué aux États-Unis, Joe Biden, se heurte au refus de la vaccination anti-Covid obligatoire par la Cour suprême. Et le Parlement vient de mettre un coup d'arrêt à sa réforme électorale. Le président s'était pourtant déplacé en personne au Capitole. Au Royaume-Uni, aussi des dirigeants dans la tourmente. Les appels à la démission continuent contre le Premier ministre Boris Johnson, accusé d'avoir participé à une garden party dans les jardins de Downing Street en plein confinement. Deux autres fêtes de ce genre auraient eu lieu, selon la presse, à la veille des funérailles du prince Philippe, époux de la reine, alors que le pays observait un deuil national. Et puis le fils préféré d'Elisabeth II en disgrâce, le prince Andrew, obligé de renoncer à ses titres militaires et parrainages d'association. Et pour cause, Laura Kalmus, la justice américaine refuse de classer sans suite la plainte au civil qu'il accuse d'agression sexuelle sur mineur.
Il ne pourra plus se faire appeler son Altesse royale et a rendu à sa mère ses titres militaires. Il devra également se défendre dans cette affaire comme un citoyen privé, a annoncé Buckingham Palace, laissant ainsi entendre que la souveraine ne financera pas ses frais d'avocat. Par ce communiqué, la reine Elisabeth veut montrer qu'elle a pris ses distances avec son fils, le prince Andrew, car depuis des années, il est embarrassé par ses liens avec Jeffrey Epstein et est poursuivi pour agression sexuelle à 3 reprises sur une Américaine âgée de 17 ans au moment des faits. Il peut encore faire appel, mais pour le moment, il risque un procès au civil. Le duc d'York nie vigoureusement ses accusations. Il avait tenté de se justifier en 2019 lors d'une interview qui avait soulevé plus de questions que de réponses, le poussant à se retirer de la vie publique. Les spécialistes de la monarchie spéculent déjà sur l'absence du prince Andrew du jubilé de la reine en juin prochain, célébrant ses 70 ans de règne. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Aux États-Unis, nouvelle plainte de l'ex-bébé qui nage en couverture du mythique album Nevermind des rockers de Nirvana. Spencer Eldon affirme que ni lui ni ses parents n'ont donné l'autorisation d'utiliser cette image de lui nu, cliché, à caractère pédopornographique, estime le trentenaire.
France Inter, il est 7h40. La suite, la fin du journal de Marion Lourd.
Quand l'art tutoie la polémique, l'Autriche présente jusqu'en avril une grande exposition d'art nazi. Événement intitulé « Vienne se met au pas » au musée de Vienne, le Musa. On y voit des portraits de dignitaires nazis, des sculptures martiales, des scènes de la vie du régime ou des représentations bucoliques. Toutes remontent entre 1938 et 1945. L'idée des concepteurs, ne plus cacher ces œuvres, mais les contextualiser. Isorias a visité l'expo pour France Inter.
Des scènes traditionnelles de la vie paysanne, des sculptures néoclassiques et de nombreux portraits de l'élite nazie. Voilà les œuvres que l'on découvre dans cette exposition. Certaines sont posées au sol, d'autres encore dans leur carton d'emballage, car il s'agit davantage de documents historiques que d'œuvres de valeur artistique, explique la commissaire Sabine Plakholm-Forshuber.
Ces objets sont présents dans les collections de nombreux musées, mais sont rarement montrés. Pour nous, il était important de les sortir de la réserve pour dire « ces objets existent, il ne faut pas en faire un mystère. Les gens devraient les voir pour savoir de quel type d'art il s'agit. Nous voulions les exposer, mais sans leur conférer une aura ou une esthétique. »
Leurs auteurs devaient répondre aux critères nazis et s'enregistrer auprès d'une autorité qui contrôlait entièrement leur production. Plusieurs d'entre eux ont pu continuer à travailler après la guerre, car l'Autriche a longtemps refusé de faire face à son passé. Exposer cet art aujourd'hui est une manière de s'y confronter.
Dans l'histoire de l'art, on considère souvent que cette période n'a pas existé. C'est faux, on a produit de l'art, un art étroitement lié à la politique. De tels systèmes existent encore aujourd'hui dans d'autres pays. Je crois qu'on peut en tirer des enseignements. À mes yeux, il est toujours meilleur de débattre publiquement de l'histoire plutôt que de la cacher.
L'exposition a déjà attiré plus de 4500 visiteurs. Vienne, Isorias, France Inter.
Du grand art, les handballeurs français démarrent idéalement l'Euro avec une victoire décrochée hier face à la Croatie, 27-22. Prochaine rencontre, ça sera contre l'Ukraine demain. Et puis le sport sur grand écran avec un héros du ballon rond, le film tiré de l'autobiographie de Zlatan Ibrahimovic sort aujourd'hui dans les cinémas suédois. Ce biopic, comme on dit en bon français, raconte, je cite, l'histoire vraie d'une légende vivante. Et vous, votre biopic, c'est pour quand, Nicolas?
Je ne sais pas, ce sera un court-métrage en tout cas. Merci Marion Lourd, l'édito politique. À suivre.